Des activités indépendantes, des activités rebelles un peu pour prendre tes mots. Ce sont des activités rebelles avec j'irais pas avec un soutien dans ces raies de la commune en se disant je suis obligé de dire oui. Tu vois, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment. C'est quand même la sixième commune de Belgique en termes d'habitants. Et je veux dire, mais ce qui se passe ici culturellement, mais c'est maigre. T'as à chaque fois tes petites entités qui se battent chacune de son côté, comme le centre culturel de Scarbet, comme... Oui. Je veux dire, voilà. Moi, c'est vrai que moi, je peux en parler, parce que voilà, j'annexe l'espace public, et parfois, je l'annexe de force. Combien de fois je ne l'ai pas annexé de force dans Scarbet ? Combien de fois je me dis, et si je déplaçais Mimounet, j'allais dans le territoire de la ville de Bruxelles, ce serait peut-être un peu plus facile. Combien de fois, tu vois, je me pose pas cette question. Et c'est pour ça que je trouve que dans Scarbet, tu as cette espèce de creux culturel. Et je pense que c'est une volonté. C'est vrai que la commune est en déficit, mais acculturer une commune, tu vois, ne résout pas, tu vois, ça veut dire que ton déficit, il est dans tout.
Mais tu choisis quand même de travailler spécifiquement ou le plus possible à Scarbec. C'est aussi pour toi un activisme.
En fait, comme je suis Saint-Just-Nodois et que Saint-Just et Scarbec, c'est lié et t'as cet affect, en fait, quelque part, t'as vraiment cet affect.
Oui, mais tu travailles aussi avec les jeunes de Scarbec.
Ouais. Oui, t'as cet affectif parce que t'es vraiment lié, c'est chez toi, c'est ta rue, je veux dire, je veux monter un chapiteau, dernier montage, j'irais le Lockton, ça les arrangeait très bien, c'était un privé, un arrangement avec un privé. Bonjour monsieur Lockton, vous pouvez nous prêter votre lieu gracieusement, tous vos 8000 mètres carrés pour faire un festival. Ok, super. Je veux dire, voilà, à côté de ça, juste avant, on avait demandé à se mettre sur le Oufalise. En face de la piscine, c'est Oufalise.
Oui, Oufalise.
À Oufalise, et l'autorisation n'arrivait pas. Donc, à un moment, soit l'autorisation n'arrive pas, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme si on avait une autorisation, on vient s'implanter. Parce que, je veux dire, voilà, tu as 200 jeunes, X jeunes qui préparent le festival, qui préparent leur spectacle, et à un moment, qui attendent le truc.
Moi, j'avais quelque chose par rapport au projet que je trouve vraiment bien, parce que je trouve qu'il met en avant ce que j'appelle des fois le génie populaire. Il y a une création qui est faite, on ne peut pas dire c'est lui qui l'a fait ou c'est un autre, c'est pas une création individuelle, c'est une création collective. On disait que donc, c'est effectivement un croisement de différentes cultures, mais chacun, quelle que soit sa culture d'origine ou ses cultures d'origine, peut s'approprier tous les mots. Un Marocain saura utiliser le merci turc, enfin voilà, ou un mot... d'une consonance peut-être plus tard géorgienne ou d'Azerbaïdjan, voilà. Et simplement, j'avais par rapport au mot dictionnaire, j'étais un peu surpris parce que pour moi, dans ma conception d'un dictionnaire, c'est pas un dictionnaire, c'est un répertoire de mots. Et un dictionnaire, pour moi, il y a, mais c'est vraiment personnel. Hein. J'ai travaillé un petit peu donc avec en faisant des ateliers d'écriture ou de théâtre en milieu migrant. Et à un moment donné, donc il y a cette langue qui est arrivée, que je montrais un peu dans le film à la recherche du gitan perdu. Il y a cette langue qui arrive qui est la langue que créent les migrants, quelle que soit leur origine, quand ils essayent d'apprendre le français, ou quand ils apprennent, que j'appelle le créole immigré, parce qu'il a des accointances avec le créole, les Antilles, ou que j'appelle l'immigratien, pour rigoler un petit peu. Et donc j'ai commencé à faire un dictionnaire d'immigration, mais c'est long parce qu'il faut recueillir la définition, il faut remettre la définition dans le moment où le mot est sorti, qui est un mot qui sort malgré lui parfois. Je vais donner juste un exemple. Je me demandais justement comment faire. Par exemple, il y avait un mot qui était lui c'est un alcooliste. Un alcooliste, pas un alcoolique, mais un alcooliste. Alors j'avais mis la provenance. Mauritanie, Al-Poular, un peu de Mauritanie. Pourquoi ? Parce que c'était intéressant, puisque c'est des musulmans pratiquants, mais avec un regard si anoblissant sur l'humanité, que même ils reconnaissent à un alcoolique une certaine science dans sa pratique de l'alcoolisme. C'est-à-dire, c'est pas un alcoolique, c'est pas une victime passive de l'alcool. Donc j'ai essayé de trouver des définitions courtes en remettant dans le contexte, etc. Et dans votre dictionnaire, moi je n'ai pas fait mon dictionnaire encore. Hein. Je crois que j'ai fait 10 mots. Donc il y a du travail. Arriver à 2000 mots, je ne sais pas. Quand on pense à Raphaël Confiant qui a fini par faire une grammaire du créole et un dictionnaire, on en est très loin. C'est normal, c'est quelque chose qui est en train de naître. Mais j'adore votre travail. Mais le seul chose, c'est que, et peut-être il faut garder le mot dictionnaire quand même, parce que ça, du coup, ça interroge, tu vois. Et c'est plus parlant que le mot répertoire, par exemple, c'est vrai. Mais souvent, je cherchais la définition, et je ne la trouvais pas. Mm. Par exemple, je l'ai trouvé en fait dans le premier mot que j'ai regardé, ce qui était, je vais le prononcer comme un cochon d'Inde, c'est cette nouche. Mais moi j'ai vu le 7. Donc
c'est
une vers de terre et en arabe, donc c'est un des nombreux termes.
Et c'est écrit 7.
Oui, j'ai vu ça.
Voilà. Donc, et là il y avait une définition. Désigne policier, vient de vers de terre. C'est-à-dire, ça reprenait un peu plus la structure super classique, mais ça, elle est intéressante aussi, surtout quand on fait quelque chose de pas classique, du dictionnaire. C'est-à-dire de... Après, c'est très intéressant que vous avez présenté, c'est très riche, parce qu'il y a justement le lien audio, et puis les mots liés, vous appelez ça, etc. Mais j'avais juste une interrogation sur trouver des mots. Après, j'ai pas regardé tous les mots, mais j'en ai regardé quand même 100, je crois. J'avais du mal à trouver la définition. Je trouvais où c'est apparu. Et des fois, je trouvais des mots. Par exemple, il y a un mot qui m'a beaucoup parlé, qui est je ne retiens jamais le nom des hommes politiques, qui est Knowles. Voilà, parce que je connais son histoire, parce que il est une preuve vivante que des fois les Belges disent, moi je suis français, hein, les Belges disent oui, on n'a pas le même rapport colonial que vous les Français avec les Maghrébins. Je veux dire, la politique de Knowles est une politique coloniale à 200%, enfin avec exactement les mêmes schémas que la politique actuelle en France, qui rappelle les discours sur la guerre d'Algérie au début et sur la colonisation de l'Algérie. Enfin, mais par contre, c'est pas un mot qui veut dire quelque chose. C'est un mot qui appartient à l'imaginaire scarbécois. Ou peut-être il est utilisé. Est-ce que c'est une insulte pour dire à quelqu'un t'es un Knowles, par exemple, ou t'es en train de me Knowlesiser. Voilà. En France, par exemple, de politiquement, le Sarkozy a tellement représenté une avancée, ça a avancé depuis longtemps, mais une avancée tellement violente de l'ultralibéralisme, il est venu pour ça, et il a fait ce qu'il disait. Et c'est ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, et les 5 encore pire, il y a vraiment eu beaucoup de changements en France. Donc dans les milieux politiques, dans le jargon, il y a presque « ne me sarkozise pas » en France. Donc, ne le cisse pas, ça pourrait être, ça sonne mieux en plus, c'est plus claquant.
C'est une génération
voilà.
Aussi,
il n'est plus là, mais apparemment, il a marqué les esprits, il a changé Skarbek, d'une certaine manière. Oui. Il y a plein de choses qui devaient se passer avant un Skarbek, qui ne se passent plus. Voilà. Donc, simplement, voilà, j'avais cette réflexion par rapport, c'est un dictionnaire de la vie carbécoise, dans lequel laquelle le langage est là. Il y a quelque chose comme ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le mot dictionnaire. Hein, du tout. Mais ça m'interrogeait. Ça m'interrogeait juste.
Ouais. Donc, c'est un projet pas francophone, mais scarbécophone. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un côté néerlandophone, il y a un côté turcophone, je ne sais pas quoi, l'ophone. En néerlandais, dictionnaire, c'est word book, et c'est très juste. C'est un livre de mots. Bon, on traduit avec dictionnaire, on est très ouvert aux alternatives, mais à ce moment-là, on chipote avec le français, je ne pense pas que c'est l'idée. Je pense que tout le monde est tout à fait d'accord que ce n'est pas un dictionnaire. On ne parle pas d'une langue si on parle de projet de la langue scarbécoise, parce que le côté langue, pour nous, ça vient du contexte. Donc on a cette raccourci de mots qui sont tous implantés dans un contexte et tout l'ensemble, donc ça fait une chose cohérente, même si au premier regard c'est une collection assez hybride, complètement déconnectée, avec des grands trous dedans, Mais c'est juste ça, c'est qu'il y a vraiment intéressant. Et c'est, je pense, hein, le but de projet, c'est de penser autrement, de comment dire, faire la liaison entre les fragments. Donc, de ne pas respecter la langue comme il est écrit par les instituts, mais de dire, bon, voilà, il y a des gens dans la rue qui se parlent par rapport, par utiliser les mots, mais aussi par utiliser autre chose. Moi, j'ai une connaissance de français qui est très basale, donc parfois, j'utilise autre chose que les mots.
Bien sûr, bien sûr.
Et voilà, ça se passe, le dictionnaire, mais pour moi, ça rentre dans la même chose, le même truc. On est en train de communiquer avec...
attention, hein, j'attaque pas du tout le projet. Non, mais simplement, c'est juste l'idée d'avoir des mots avec une définition.
Mais là où les mots sont créés, c'est intéressant aussi. On parle de ces dérivés de langage. Et donc des dérivés de langage, un mot arabe qui dérive vers un mot scarbécois, comme un mot, comme le mot dictionnaire lui aussi devient aussi un dérivé de langage. Si voilà. Moi j'ai un mot. J'ai regardé dans le dictionnaire, il n'y était pas. Et en fait c'est un mot qui est un peu lié culturellement. Pendant 3 jours à Scarbec, 3-4 jours à Scarbec, mais tout le monde utilise ce mot. Mais tout le monde. Mais tout le monde l'utilise très bien parce qu'il faut pas. Faut pas qu'on entende. En fait, c'est le mot haouli ou le mot kebsh. Ça veut dire mouton. Parce que pendant les 3 jours ou les 4 jours avant la fête du mouton, tout le monde va acheter son mouton. Allez, je dirais 80% vont acheter leur mouton qui vont égorger chez eux à la maison d'une manière illégale. Et donc, c'est un mot que il doit rester encore bien secret. Et donc, voilà. Et donc, ça a appelé de deux manières. On dit soit haouli, soit kebsh.
Et quelle est la différence?
C'est en fonction des régions.
Kebsh, c'est la langue littéraire. En fait, le mot kebsh, c'est la langue littéraire. Et haouli, c'est bon, le dialecte. C'est...
Mais quelque part, la langue. Oui.
Et alors, bon... Par exemple, quand il y a quelqu'un de stupide ou je sais pas moi, ou on dit haouli par exemple, ça veut dire c'est un mouton.
Et donc c'est vrai que personne s'en rend compte, mais d'un coup t'as une voiture qui se gare, t'as apporté le haouli, ouais, il est dans le coffre. Apporte une couverture pour le haouli. C'est bon, il n'y a personne, on l'emballe dans la couverture, on le rentre. Et en fait, personne ne capte.
Parle la langue. Cette année-ci, il y aura le sommet de la francophonie à Kinshasa. Et quand on dit écrivain francophone, ça veut dire c'est pas un écrivain français. C'est tout le monde qui vient du monde entier, sauf les Français. Et pas seulement.
Mais c'est le monde francophone.
Oui, oui, c'est le monde. Oui, mais je crois que c'est plus dans l'utilisation d'une langue. Ça veut dire que la langue. Pourquoi est-ce que ces écrivains écrivent en français? Pourquoi est-ce que moi j'écris en français, je pourrais écrire en anglais, je pourrais écrire en lingala, je pourrais écrire en tout? Mais ça dit, c'est le français pour moi me permet de... C'est une langue riche. En anglais, quand on dit être, on dit to be. Être, c'est to be. Dans tous les sens, c'est toujours to be. En français, non. Ça peut paraître, ça peut sembler, ça peut... Voilà. Et c'est toujours être. C'est pour ça que je prends le... Parce que quand je pense en lingala, parce que j'écris, quand j'écris, je pense dans ma langue.
Eza.
Eza.
Être.
Ah, Eza.
Il est dans le dictionnaire.
Ah, ok. Okay. Donc, être. Et donc, ça dit, quand je pense en lingala, avec le français, j'ai une palette de mots qui me permet justement de trouver que cette pensée, si j'essaie de la traduire en français, ça risque d'être difficile. Mais j'ai quand même plusieurs mots qui me permettraient de trouver le mot qui correspondra à ma pensée en lingala. Et toujours, ça dit, la langue c'est pour communiquer, c'est pour pouvoir communiquer, pour pouvoir mettre en place des liens. Par exemple, cette histoire-ci, ici, si vous regardez à la fin, le titre original
est en anglais, ça.
Est en anglais. Titre original, Why the Lion is No Longer the King of Animals. À cette époque-là, je n'avais encore rien écrit. Mais je me dis, bon, si ce machin arrive dans les mains d'un noir, d'un japonais, de n'importe qui, il doit pouvoir le comprendre. Si j'écris en français, il y aura que le français qui va comprendre. Mais l'anglais, ça peut... Donc il n'a pas besoin de chercher un traducteur pour pouvoir lire mon texte et dire, ah tiens, ce truc, je l'ai dit. Ah, je l'écris en langue. Donc voilà, pour moi, la langue... Il n'y a pas de frontières, ça dit je peux utiliser la langue que je veux, et je crois que bon, et justement ce projet ça correspond tout à fait à cette démarche-là, dans le sens que quand il a fallu inventer un mot pour pouvoir mieux se faire comprendre, inventer un mot pour pouvoir mieux communiquer, on l'a inventé, il ne faut pas hésiter à inventer.
Mm-hmm.
Voilà, c'est, il faut avoir cette audace-là.
Je vais peut-être enchaîner avec le mot que j'avais choisi pour ce soir, qui a un peu, qui m'a aussi motivée pour organiser cette réunion, parce que ça m'a fort questionnée. Donc, j'écris en néerlandais, avec toutes les conséquences du monde, parce que c'est aussi une langue minoritaire. Et pour ce projet, pour présenter ce projet un soir, j'avais écrit en français, mais avec plein d'autres langues, mêlé plein d'autres langues, et j'avais pris un mot du dictionnaire comme point de départ, qui était couche pour nez. Et couche pour nez, c'est un mot turc pour dire églantier. C'est ce qu'on pense. On n'est pas sûr. Parce qu'on a trouvé ce mot dans le jardin populaire aussi, d'une femme qui a son jardin là, qui nous a fait goûter de la confiture de couche pour nez. Et ce mot, c'est assez intuitif, il m'est resté, et je l'ai pris comme couche pour nez. Donc, et nez, c'est devenu un roi, et il fallait coucher pour nez. Et en fait, cette histoire est sortie comme ça, mais ça m'a fort questionnée sur à quelle mesure on peut utiliser un mot aussi. Donc, le mot appartient à un certain contexte, ici à Skarbek, mais aussi dans la langue turque. Moi, je l'ai pris, je l'ai complètement réinventé, et j'en ai fait une histoire pour parler de l'églanté est un thème dedans, mais pour parler d'autre chose. Donc c'est aussi cette appropriation, jusqu'à quel point on peut, ou on doit, ou on, en tant qu'écrivain, on peut se utiliser cette matière. C'est une question.
Le projet des ateliers d'écriture dans les écoles à Skarbek, regaucherait tout. Donc la majorité des gamins, turcs, roms, roumains, albanais, enfin, pas beaucoup d'Africains. Et bon, et dans une classe de ce qu'on appelle vulgairement des primo-arrivants, donc moi je fais du mime en fait, l'atelier d'écriture, il arrive à la quatrième séance, quoi, où j'arrive à sortir deux, trois mots, etc. Et donc on avait travaillé sur ce qu'on aimerait enlever du monde, c'était un des thèmes qu'on avait sorti pour écrire des chansons. Le but c'était d'écrire des chansons. Et il y avait deux petites roms comme ça. Et en fait, il y a des alliances entre les gamins, entre ceux qui parlent un peu la langue de certains, etc. Donc comme moi je parlais en français, et qu'il y avait des mots qui n'étaient pas compris, je voyais qu'il y avait des alliances entre deux petites turques avec machin, et voilà. Donc, il y avait que des... Donc finalement, il y avait une autre langue qui circulait, qui était la langue de l'entraide, pour essayer de me comprendre moi qui parlais français. Donc un jour, on est en train de discuter de tout ce qu'on aimerait enlever du monde, quoi. Et alors évidemment, les choses évidentes, c'est d'abord dans le quartier, donc tout ce qui est crade, tout ce qui est les poubelles, les pigeons dégagés, les trucs qui sont sales, machin. En général, ils avaient entre 8 et officiellement 12 ans, mais je pense qu'il y en avait 2-3 d'un peu plus. Et donc on discutait, etc. Puis un mec qui me dit, moi j'aimerais enlever les fleurs de serpent. Donc, question, qu'est-ce que c'est fleur de serpent et tout. En général, on vient vite au dessin, on y a un tableau, donc hop, on va au tableau, on dessine un truc et tout. Je dis, va dessiner ce que c'est que la fleur de serpent. Elle dessine un truc, mais c'est une plante, donc, enfin, fleur de serpent, ça reste une fleur de serpent même comme ça. Et donc elle dit, voilà, quand on s'y frotte, enfin, je comprends que quand on s'y frotte, on s'y pique, etc. Et donc on cherche. Moi je sors ortie à un moment. Mais ortie, je suis la seule à comprendre ce mot dans cette classe. Je dis ortie, mais il n'y a personne qui peut valider mon mot ortie, quoi. Et je suis comme une conne avec mon morti en train de dire c'est pas d'ortie. Et voilà. Et du coup, eux, ils sont tous contre moi en train de dire non, c'est la fleur de serpent. Et non, même ceux qui n'étaient pas entre guillemets d'accord oui. avec l'idée que c'était fleur de serpent, ça devenait de toute façon fleur de serpent, quoi. Et donc, moi, j'étais toute seule avec mon ortie. Quand je suis sortie de la classe avec ortie, et finalement, ça n'a servi strictement à rien puisque c'est fleur de serpent. Et dans la chanson, évidemment, la chanson s'est intitulée fleur de serpent. Et on est les seuls à avoir compris ce que c'était que fleur de serpent. Voilà, et finalement, ça se trouve, ils m'ont embrouillé à mort. Enfin, voilà. Mais moi, j'étais la seule avec mon mot ortie et eux, ils étaient avec leur mot fleur de serpent. Voilà, je trouve ça assez valide dans l'idée qu'il y avait deux façons de se comprendre et c'est eux qui ont gagné.
Mais dans les ateliers d'écriture, justement, j'ai pratiqué beaucoup l'atelier d'écriture. J'en ai dirigé pas mal. À un moment donné, j'étais à la Maison du Livre à Skarbek, à Saint-Gilles, et j'avais des gamins de Skarbek qui étaient venus assister à l'atelier. C'était l'école, c'était une école à Evere qui s'appelle le CEFA de Evere. Hein, CEFA. Donc ça dit la moitié du temps ils vont à l'école, la moitié du temps ils travaillent. Et ils étaient une dizaine. La moitié c'était des jeunes turcs. Les autres, il y avait des bulgares, une congolaise. C'était qu'on avait 4 séances de 2 heures, 4 fois. Et en fait, le plus beau texte, c'était la plupart de ces gamins, spécialement les jeunes turcs. Ce qui était assez marrant, c'est qu'ils étaient, certains étaient venus ici tout petits, ou ils étaient nés ici. Mais leur français était moins élaboré que les bulgares qui étaient arrivés 2 ans avant. Donc déjà, moi, ça m'avait interpellé, je ne comprenais pas tellement bien. Et puis, il y en avait un parmi eux qui s'appelait Mehmet. Et lui, il ne voulait rien entendre. Chaque fois que on discutait avec les autres, on discutait bien et tout, mais lui, Mehmet, il était comme ça, taciturne, on n'y parlait pas. Il savait me dire, tout ce qu'il pouvait me dire, c'est que je sais pas. Tu lui demandes une question, il dit je sais pas. La deuxième phrase, c'était je veux pas. La troisième mot qui me sortait, c'était je fais pas ça moi. Bon. Quatrième séance, le gars n'avait rien écrit, rien. Ce garçon, et bon, à un moment donné, je m'assieds à côté de lui, j'ai un peu le bousculer là, et puis je dis écoute, raconte-moi une histoire, on devait parler de l'immigration justement. Ce garçon avait peut-être. 25 mots de vocabulaire. Ce type m'a écrit le texte le plus beau que j'ai lu dans ces ateliers-là. À un moment donné, je le pousse, puis. Et il me fait bon, ça va, je vais le faire. Et puis il commence à écrire. Avec ces mots, le texte était quoi? Ça commençait par je m'appelle Sébastien Rouge. Je suis mince, mais je suis fort. Je suis mécanicien. Je travaille dans un garage. Un jour, Selçuk, un méchant, me jette de l'huile. Il me regarde, il me dit, je rigole. Puis, je lui donne une pêche. Puis, plus de travail. Ma femme me dit, ça va aller, Sébastien, tu trouveras du travail. Au début, cela n'allait pas. Après, c'était un peu plus compliqué. Plus tard encore, ça n'allait vraiment plus. Alors, je suis parti pour Izmir, en cachette. Je suis rentré dans un bateau pour partir pour l'Allemagne. Point. Il y avait tout dans son texte. Il y avait tout. Il y avait l'émotion, il y avait l'amour, il y avait la trahison, il y avait tout. Avec 25 mots de vocabulaire, ce garçon. Ce garçon, il a écrit ce texte, il l'a jeté comme ça, il est parti. Il ne sait même pas ce qu'il a écrit. Un garçon, un gamin d'ici de Scarbeck. C'est le texte jusqu'aujourd'hui, je l'ai en tête, et ça fait des années. Et j'ai dû le lire 2-3 fois, et ça m'a. C'est le texte qui m'a le plus bouleversé. Mehmet.
Et vous l'avez plus revu ?
J'ai plus jamais vu. Il ne sait même pas ce qu'il écrit. Déjà le prénom du gars, je lui ai dit mais comment il s'appelle son personnage ?
Il est devenu Echevin de la culture.
Déjà, sur le nom du personnage, je lui ai dit écoute, donne-lui un nom. Et puis il l'appelle Sébastien Rouge. Et alors, comment il s'appelle cet écrivain? Oman Pamuk? Non. Oman Pamuk. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Rouge. Oui, quand j'ai vu ce livre, je l'ai acheté tout de suite, grâce à Mehmet.
Oui. Ouais.
Ça, c'est Scarbé. Oui. C'est qu'il y a de la ressource, même avec 25 mots de vocabulaire, donc ça dit que toi, tu as du travail. Mais. Tu as du travail, mais il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir. Il faut bousculer peut-être un peu. Mehmet, j'ai dû me bousculer un peu.
Comment tu travailles avec les jeunes?
On choisit un thème, donc une année sur deux, donc soit un thème social, soit un thème classique ou théâtral. Donc par exemple l'année dernière c'était Sois jeune et tais-toi. Voilà, en référence aux 68 arts et à la, voilà. Et donc voilà, c'est un thème libre, les gamins peuvent vraiment à partir de là monter comme ils veulent. En gros, c'est en un espace-temps de 3 mois, un comédien ou un animateur ou un metteur en scène est engagé par la compagnie et va monter un spectacle sur un thème commun à tous les groupes, avec une référence d'un atelier d'une fois par semaine qui s'intensifie à 2 fois par semaine. Et dans cet espace, 3 mois, au bout de 2 mois de travail, nous on installe le chapiteau à Scarbec dans un endroit. Tous les gamins qui veulent peuvent venir répéter dans le chapiteau. Le dernier week-end, tous les groupes présentent leur création face aux autres groupes et face à un jury qui départage les groupes gagnants. Et le groupe gagnant part pour un échange jeune, un vrai échange pédagogique avec un lycée français à Naples. Donc voilà. Et je crois que jusqu'à présent, le mot Naples, c'était un mot de rêve pour les adolescents oscarbécois.
Ah oui, parce que ceux qui vont reviennent.
Ah oui, ceux qui vont reviennent. Et on a invité Anna Rossini, qui est l'organisatrice du festival à Naples. Et elle ne s'est pas rendue compte, mais en fait, c'était une star. Et tout le monde la connaissait. Donc c'est vraiment Anna, elle a 87 ans, donc 83, donc et comme tout le monde l'avait décrit, donc dès qu'elle marchait dans le village, t'as tout le monde qui venait chez elle. Anna, tu m'emmènes Anna, Anna.
Émile Mouna, pour faire l'image complète.
D'où vient Mimouna? En fait, Mimouna, c'était lors de la toute première Zinoque Parade. Donc, en tant que compagnie théâtre, on nous a demandé d'organiser une parade. Et donc, je ne savais pas comment organiser une parade. Parce que bon, voilà, c'est le théâtre. Et je me suis dit, alors il faut créer une espèce de spectacle ambulant et ça va s'appeler Mimouna. Et pour moi, Mimouna, en fait, symbolise la mixité. Et c'était vraiment, en fait, à l'époque, Mimouna, c'était Mimouna, fille d'une famille berbère, bien ancrée dans les racines et tout, qui se marie avec un Belge. Et en fait, le char principal, c'était le char des mariés, et vraiment symboliser cette mixité de deux cultures et cette ouverture. Voilà. Donc ça, c'était à l'époque.
Mimouna, c'est un prénom, non?
Oh, oui, c'est un
prénom. Oui, l'origine, oui. C'est un prénom.
Mais il a un sens aussi.
Oui, il doit avoir un sens. Mm. Ça veut dire quoi, Mimouna?
Ça? Oui, ça a un sens, comme vous dites, hein, parce qu'il y a plein de mots, de prénoms. Par exemple, si on dit Rahma, par exemple. Rahma, ça veut dire, c'est... Comment je vais dire
Anna?
Hein?
Non,
non.
Rahma, c'est comment expliquer? C'est la bonté.
La bonté de Dieu.
Et on pourrait dire, par exemple, que les gens, la bonté ou liée à Marhaba. Quelque part, Rahma, c'est tu écoutes l'autre, tu respectes l'autre. Et souvent, maintenant, c'est quelque chose qui revient au niveau des jeunes et tout. Où tu dis, maintenant, il n'y a plus de Rahma entre nous. C'est-à-dire, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien du tout. Tu pourrais pointer n'importe qui soit. Ou quelque part, avant j'irais, tu te balades dans un quartier, d'un con vient chez toi, on dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? T'as un téléphone et t'as... Non, c'est qu'il n'y a pas de téléphone. Ouais, tu dis, ah, regarde, ça va, je suis de la maison. Ok, cool, pas de problème. Et en fait, maintenant, pas du tout. C'est, ah, et alors, quoi, vite tes poches. Et en fait, c'est ça, quelque part, ce côté Rahma. Ça a plusieurs comme ça de
sens.
Et donc voilà, pour moi, Mimouna a une vraie signification. Oui, ça, je pourrais te le dire, ou je peux téléphoner à mon père, il va me le redire, puisque j'ai oublié.
Par exemple, ça veut dire l'injacement, comme plein de prénoms qui représentent des choses. Quoi,
mais comme nous, sauf que nous, on a perdu tout à fait ça, la signification des prénoms. La majorité des gens.
Rose, par exemple.
Oui, dans des choses qui sont encore concrètes, mais moi, mon vrai prénom, c'est Emeline. Et ça vient de Émilienne, Émilie, enfin c'est tout un et Emma, enfin il y a plein de prénoms qui viennent de ce prénom-là, mais la signification, elle est très très lointaine. Parfois c'est des saints qui ont cassé la signification. Donc il y a eu une sainte Émilie à un moment et du coup on s'est plus embarrassé de la signification d'Émilie. Voilà, et donc on a mis ça ici, on a sacralisé le mot qui est devenu donc un personnage, la personnification. Donc tous les gens qui se sont appelés Émilie après cette sainte portait non pas le nom de la signification, mais portait le nom de la sainte. Et donc, on a vraiment... Alors, nous, on a ça, hein, je veux dire. Et dans nos noms de famille aussi, hein, donc tous les noms de métiers, etc., et qu'on a complètement perdu. et géographiquement et professionnellement, on a perdu la signification de nos noms. Quoi.
Ouais. Ouais. Mais par contre, les noms, moi je viens d'avoir un bébé il y a 5 jours.
Oh,
ah, c'est oui.
Félicitations. Clémentine,
c'est mon deuxième fils, j'ai 5 enfants, c'est mon deuxième fils. Mon père s'appelle Issas. Moi je porte le nom de ma mère, Boufane. Mais mon père s'appelle Issas. Et alors mon fils, je lui ai donné, il s'appelle pas Issas. Et le petit, je l'ai appelé Issas. Alors mon fils était jaloux, il dit, mais comment est-ce que, pourquoi toi tu lui as donné ce nom-là? Et moi tu me l'as jamais donné. Mais Issas, c'est une balle.
Une balle peut-être.
Une balle.
De foot ou...
Une balle comme ça. Ah. Donc, ça doit être un nom-là, peut-être un ancêtre qui est des bons chasseurs ou quelque chose dans le genre. Mais bon, mais mon fils, il me dit, pourquoi? Parce que, en fait, je dis, si je donne ce nom-là, il risque d'être un petit voyou sur les... Si jamais il devient voyou dans la vie, ça risque de craindre avec un nom pareil. C'est trop chargé.
Toi, tu devrais une destinée, déjà. Mais t'as quand même choisi...
Oui, mais j'ai eu peur. Non, j'ai eu peur. Je ne lui mettais pas une destinée. Mais quelque part, aujourd'hui, il a 21 ans. Pendant 2 ans, le 15 à 17, il m'a fait passer des nuits blanches. Histoire des bandes urbaines et tout. Bon, lui, il n'était pas dedans, mais c'était quand même à l'époque où ça criait très fort. Donc voilà, mais j'ai toujours eu très peur de lui donner ce nom-là. Et alors il me dit, ouais, pourquoi lui tu le donnes? Je dis, non, je lui donne parce que bon, il a fallu quand même à un moment donné, je donne à mon père. Et je dis, mais maintenant, lui, il a un grand frère qui pourra le sauver dans la rue. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais ça dit, les noms aussi sont chargés. Enfin, pour moi, en Afrique, en tout cas, les noms sont chargés.
Mais partout, mon fils s'appelle Cassius. Okay. Donc, il mordait à l'école, etc. Et comme tous les parents bobos dont je fais partie, on est allé voir un pédopsychiatre, puis un psychomotricienne relationnelle, tous ces gens-là qui donnent des conseils, etc. La pédopsychiatre de Saint-Jean, ici, tu vois. Mm-hmm. Elle est rentrée et tout, et comment il s'appelle, Cassius? Ah bah oui, mais...
Ah, ça va. Ah ouais.
Donc ça veut dire heureux, favorisé, fortuné, et c'est un prénom d'origine hébreu d'Afrique du Nord.
Okay. D'origine hébreu.
Ouais. Okay. Okay. Et ça, exactement, pour revenir au mot dictionnaire et le fait qu'il y a tellement peu de définitions dedans, c'est qu'on essaye de ne pas aller chercher sur Internet ce que le mot signifie, mais qu'on demande à la personne qui nous a offert le mot comment cette personne définit.
Et donc, sachant qu'il y a des mots qui ont plusieurs, pas définitions, mais plusieurs entrées, quoi. Donc, toi, t'as vu entre guillemets quelqu'un qui dit, mais non, ça en fait il a dit ça, mais ça ne veut pas dire ça. Donc, il y a une surenchère dans le bon sens du terme qui fait qu'à un moment, un mot a plusieurs entrées dans le.
Mais quand on parle.
Et t'essayes de chercher la sonorité. Par exemple, quand on va utiliser un mot, je dirais théâtralement ou en niveau animation, on va chercher la sonorité, on va chercher quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que Mimouna, c'était la mixité. C'est un beau prénom, Mimouna. En parade, chanter, tout ça donnait très très bien.
Moi je voulais peut-être pour revenir au dictionnaire et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans le dictionnaire qui n'est pas effectivement un dictionnaire. Pour moi, c'est plus un portrait sonore du quartier en fait. Oui. Mais le côté morcellement en fait de cette liste de mots, base de données, mais je préfère liste, le mot liste de mots. Et de pouvoir aller naviguer comme ça de manière assez aléatoire, d'un mot lié à un lieu où ça a été enregistré, etc. Et ça crée une espèce de. Comme ça, un truc un peu une mosaïque, un peu quelque chose de dadaïste, un peu comme ça. Et c'est un bon reflet, c'est la page de garde en fait, du site. C'est un petit robot qui va chercher de manière aléatoire les mots de la liste. Et puis, il y a des virgules et des points qui apparaissent. Donc, ça se fait une espèce de phrase comme ça. Et donc, ça crée quelque chose de complètement... inventé comme ça.
Fictionnel.
L'histoire de ces mots, ouais, ce que je dis, ce que racontent les gens, c'est magnifique. Et c'est ça, je me posais cette question-là par rapport à la fiction, parce que